VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Nouakchott, midi à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Nigeria, explosion d'une bombe au marché de Djimeta à Yola, la capitale de la province d'Adamawa hier soir. Bilan, au moins 31 morts et 38 blessés selon les services d'urgence. Personne n'a revendiqué l'attentat, mais ce type d'attaque est généralement attribué à Boko Haram. Le groupe islamiste a intensifié sa campagne depuis l'annonce par le nouveau président nigérian Muhammadu Buhari de son intention de transférer la base nigériane d'opération contre Boko Haram à Maiduguri, le berceau de la secte. Le général Buhari était à N'Djamena hier pour remercier le Tchad pour sa contribution à la lutte contre les islamistes et avoir des consultations avec son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Voici le communiqué conjoint après les entretiens, lu par le chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki.
Les deux chefs d'État ont fermement condamné les actes terroristes et inhumains commis sur les populations civiles nigérianes et celles des pays voisins par des éléments de Boko Haram. Ils ont relevé qu'au nombre des conséquences de l'insécurité ainsi créée figurent les pertes en vies humaines, la destruction des biens et le déplacement des populations dans la région du bassin du lac Tchad. Les deux chefs d'État ont clairement exprimé leur volonté et engagement de collaborer à tous les niveaux pour rendre plus efficace le combat commun qu'ils mènent contre la secte Boko Haram et de ramener ainsi la paix et la sécurité indispensables au développement de la région. Le président Muhammadu Buhari a exprimé à son frère et ami le président Idriss Déby Itno sa reconnaissance pour le rôle déterminant joué par son pays dans l'affaiblissement de cette secte, saluer la mémoire des valeureux soldats tchadiens tombés sur le champ d'honneur et présenter ses condoléances à leur famille.
Moussa Faki, ministre tchadien des Affaires étrangères, extrait fourni par FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena. Au Burundi, pas d'élections législatives et locales aujourd'hui, conformément aux recommandations des chefs d'État de l'Afrique de l'Est qui ont préconisé un report de 6 semaines de ces 2 scrutins. Concernant les présidentielles et la détermination du président Pierre Nkurunziza de briguer un nouveau mandat en dépit des protestations à domicile et des pressions de la communauté internationale, le gouvernement ne changera pas d'avis, déclare en substance Willy Niamitwe, conseiller en communication de la présidence burundaise, au micro de Nicolas Pino.
Ce débat autour du mandat du président actuel, que les uns qualifient de troisième et d'autres qualifient de deuxième élu au suffrage universel, eh bien, a été clôturé à Dar es Salaam. Ce n'est pas une question taboue. Vous savez, dans un régime démocratique, les gens continuent à discuter de toutes les questions, les gens continuent à dialoguer. Alors si l'une ou l'autre personne veut avoir des éclaircissements sur un point ou un autre, ce n'est pas exclu. Mais sur la table et discuter sur le fond, en ce qui concerne la candidature ou non de l'actuel président de la République, cela a été clôturé à Dar es Salaam.
Concernant le nouveau calendrier que tout le monde attend, quand pensez-vous aboutir à la publication de ce nouveau chronogramme électoral?
Ce qui est sûr et certain, pour la présidentielle par exemple, elle peut se tenir 2 mois avant échéance ou au plus tard 1 mois avant échéance. L'échéance, c'est le 26 août. Donc le 26 août, un nouveau président de la République devra être investi et devra prêter serment devant les deux chambres du Parlement. Donc avant tout ça, il faut que les élections communales et des députés et les sénatoriales soient tenues pour que le président soit aussi élu au suffrage universel direct et prête serment le 26 août prochain.
Willy Niamitwe, conseiller en communication de la présidence burundaise. En RDC, 46 civils condamnés pour violences sexuelles dans le district de Lituri, dans l'est du pays. Des précisions avec Eddy Isango.
Les condamnations ont été prononcées à l'issue de 3 semaines d'audiences foraines qui se tiennent dans des coins reculés. 65 prévenus ont comparu lors du plus grand cycle d'audiences de ce genre, organisé depuis la nomination d'une représentante spéciale pour la lutte contre les violences sexuelles. Ils étaient tous accusés d'agressions sexuelles ou de viols commis en 2014 et début 2015 à Nituri, district de la province orientale dont Bunia est le chef-lieu. Le président du tribunal, Alphonse Wonga, a annoncé que 46 accusés ont été condamnés et 13 acquittés. 6 dossiers ont été renvoyés pour approfondissement de l'instruction. Les peines prononcées vont de 7 à 15 ans de prison ferme, selon M. Wonga.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Niger, en poursuite des opérations de recensement électoral, plus de 15 000 agents s'activent depuis hier pour collecter les données sur les Nigériens en âge de voter. Une campagne en cours non seulement au pays, mais aussi dans certaines ambassades à travers le monde. Notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, a suivi deux équipes dans la capitale. Voici son reportage.
Pendant 3 semaines, les équipes d'agents recenseurs vont faire le porte-à-porte pour enregistrer les données des citoyens en âge ou en droit de voter. Dans le premier arrondissement communal de Niamey, où se situe la résidence du chef de l'État, une équipe est passée là-bas à la satisfaction du premier des citoyens nigériens, Issoufou Mahamadou.
Je viens de me faire recenser, et ma famille aussi. Le recensement est une phase importante dans le processus d'organisation des élections dans notre pays. Nous souhaitons que les prochaines élections soient transparentes, libres, honnêtes et crédibles. Et une des bases, c'est le fichier électoral. C'est pour dire combien nous attachons de l'importance à cette première phase du processus, à cette phase de recensement. Je lance un appel à tous les Nigériens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour qu'ils se fassent recenser. Et j'espère que tout ce processus va être conduit dans la transparence.
Un peu plus loin, dans le deuxième arrondissement communal, au quartier Boukouchikat, ce père de famille est tout aussi réjoui après le passage de l'équipe d'agents recenseurs.
Alhaji Abdou Amaynassara, habitant du quartier Boukouchikat, enseignant de formation. Je viens d'être recensé, j'ai l'impression d'être le premier. Et je suis très content. Vraiment, c'est un recensement qui a l'air de bien démarrer. Et je souhaite vraiment à l'équipe une bonne suite. Et que tout le peuple nigérien soit recensé pour que notre démocratie soit en avant. Parce que celui qui n'est pas recensé, il n'a pas accompli son devoir de citoyen. Ça veut dire qu'il ne va pas voter, ça veut dire qu'il n'aura pas de carte. Alors là, il a perdu sa citoyenneté au moment surtout des élections.
Il est prévu au cas où les équipes passent sans trouver dans les familles des citoyens en âge de voter un ratissage après l'opération, comme le rassure le responsable régional au niveau de Niamey.
Ça, c'est une organisation même que les agents recenseurs, lors de la formation, j'ai entendu cela. Quand ils constatent l'absence d'une personne, ils vont revenir encore pour constater sa présence la nuit. Je les ai entendus parler de vive voix, ça. Et dit, mais vraiment, ça nous encourage quand même de compter sur ces gens-là. Donc, ce qui veut dire qu'eux-mêmes, ils ont l'intention, en tout cas, de ne oublier personne.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Ghana, 3 jours de deuil national pour les plus de 150 personnes qui ont péri jeudi dans l'incendie d'une station-service et les inondations à Accra, la capitale. Lionel Gaïma.
S'adressant à la presse hier soir, le président John Dramani Mahama fait savoir que le gouvernement allouera une enveloppe de 12 millions de dollars aux secours et aux opérations de reconstruction. C'est à partir de lundi que le pays observera le deuil national de 3 jours en mémoire de victimes de l'incendie et des inondations, a précisé le chef de l'État ghanéen.
Scandale de la FIFA maintenant, une coalition d'organisations anticorruption estime que le scandale qui éclabousse l'instance dirigeante du football mondial n'aurait jamais été possible sans la complicité des grandes banques internationales, notamment américaines. Le point avec Bagassi Koura.
Le degré de corruption n'a été possible qu'avec la complicité du système bancaire international. À propos d'Éric Lecomte, cité par l'AFP, il est le directeur de la coalition d'organisation Jubilee USA qui lutte contre la corruption et l'opacité financière. La justice américaine a inculpé 14 responsables de la FIFA et du marketing sportif dans un dossier comptabilisant 150 millions de dollars de malversations. Un ex-responsable de l'organisation, Chuck Blazer, a par ailleurs directement reconnu le versement de pots de vin en marge de l'attribution des Mondiaux 98-2010. Selon l'ONG Jubilee USA, 26 banques sont mentionnées dans l'acte d'accusation, dont JP Morgan Chase et Citigroup, et certaines d'entre elles ont permis à ces fonds de circuler dans le système financier américain. Il n'y a qu'un seul cas où une banque a rejeté une opération qu'elle jugeait suspecte, a souligné un communiqué de l'organisation.
Et pour terminer, Washington attribue à des cyberpirates chinois ayant peut-être des contacts avec le gouvernement chinois l'attaque numérique contre l'OPM, l'agence du personnel qui gère les effectifs du gouvernement. Mais l'ambassade de Chine à Washington dément ces accusations. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com, mais également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.